Bien. Est-ce que Bertrand est arrivé?
Oui.
Ah, il me semblait bien t'avoir reconnu quand même. Donc, je suis Michel Bilan. Nous allons faire la conférence avec Bertrand de Mory, qui est donc qui fait partie du RPS, très engagé bien maintenant d'ailleurs. Et nous aurons également l'intervention à partir de 20h30 de Caroline Depeau, qui est la directrice du RPS, et de son adjointe Marion, mais ils ne rejoignent qu'à 20h30. Donc, j'ai envoyé toutes les questions que vous avez posées à Bertrand. J'avais également envoyé un certain nombre de pré-questions. Donc, je vais laisser Bertrand répondre à ces questions les unes après les autres. Vous pouvez bien sûr intervenir, poser des questions complémentaires, mais ne répétez pas 50 fois la même chose et surtout, ne prenez pas trop longtemps la parole. Et enfin, vous ne mettez le micro que pour poser une question et essayer de parler les uns après les autres. Le haut, il est absolument indispensable de porter le haut-parleur, autrement ça fait un effet de larcène. Bon, tout à l'heure, on entendait un chien, on entendait de la vaisselle. Ça, c'est pas normal. D'accord? Ceci étant dit, j'ai effectivement des voyants qui me permettent d'expulser ceux qui font du bruit. Je serais désolé si d'être obligé de le faire. Bon, Bertrand, je te passe donc la parole.
Bon, d'abord, je tiens, depuis que l'épidémie a débuté, qu'elle se manifeste dans notre région, j'ai pu à plusieurs reprises et en suivant un petit peu votre groupe WhatsApp, voir l'engagement de l'ensemble des médecins de Tourcoing, sachant que sur votre secteur, vous avez depuis très très longtemps un hôpital de référence en matière de maladies infectieuses. Quand j'étais à la fac, les maladies infectieuses, c'était déjà Tourcoing et ça le reste toujours pour nous, pour les médecins de toute la région, l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais. Donc, j'ai noté qu'il y avait une organisation locale qui était déjà très très active. Si tu le souhaites, Michel, est-ce que tu souhaites représenter votre fonctionnement local, savoir s'il y a des pour l'instant, où tu vas le faire en fin de réunion, savoir s'il y a des différences entre le fonctionnement au niveau régional et celui chez vous, ou à quel moment tu
Bon,
souhaites
ben,
présenter cela?
nous n'avons rien de particulier. Et si tu veux, le but n'est pas forcément de faire la promotion de Tourcoing ou d'autres villes. C'est d'essayer plutôt de recenser les différentes difficultés. À Tourcoing, on a effectivement de la chance parce qu'on a un groupe qui est bien soudé. On a une formation continue qui marche bien et qui permet. On a une maison médicale de garde qui marche bien depuis un an, pardon. Et nous avons donc réussi à mettre en place un centre dédié à Tourcoing au niveau de l'hôpital, avec vraiment le soutien de l'hôpital, du directeur de l'hôpital et des urgences. Donc, nous, d'un côté, nous avons de la chance. Nos
D'accord,
difficultés
d'accord.
sont plutôt du point de vue matériel, mais ça, je pense que ça va forcément tomber.
D'accord. Donc, je vais faire un petit peu le point sur les modifications des conditions d'exercice qu'on a un peu tous connues depuis que ça a commencé. La première chose, c'est dès que le matin, quand on se lève, on enlève sa montre, on n'a plus de montre, ni de bijoux, ni de bracelet, ni de bague, ni d'alliance. Le matin, c'est pareil, on fait son habillage avec des vêtements qui supportent plus de 60 degrés. On porte des chaussures J1 et des chaussures J2 afin de ne pas se contaminer. On porte le masque dès l'entrée au sein du cabinet sans l'ôter jusqu'à midi. On réalise nos consultations avec un patient à plus de 1,20 m de nous. Le patient, si on en a la possibilité, introduit lui-même sa carte vitale dans le lecteur. Sa carte bancaire, il l'utilise sans contact. Si possible, et
Ben dis
si on
donc,
en
je fais pas tout ça,
dispose.
hein.
Pardon?
Non. Non, on ne fait pas tout ça.
Voilà, donc tout ça, je reviens parce qu'on a eu, on a fait un webinaire il n'y a pas longtemps avec des hygiénistes, etc. Voilà un petit peu les recommandations qu'ils nous ont données. Bon, nous, au sein du cabinet, on avait un petit peu anticipé parce que au sein du RPS, on était très informés par la situation qui se passait dans l'Oise. Et on avait une consœur qui exerçait dans le pic du foyer de l'Oise et qui nous avait éveillé à la vigilance très très tôt. Donc je pense que c'est les recommandations qui nous ont été données par notre comment s'appelle par l'hygiéniste et on essaye de les mettre en place, hein. Donc j'ajoute après si possible le port du masque par le patient autant que c'est possible, hein, autant que c'est nécessaire. la désinfection de chaque instrument utilisé à l'issue de chaque consultation, du bureau, de la chaise, du lecteur de carte vitale, du lecteur de carte bancaire, avec des produits comme Sanitol ou Phagogène ou tout autre produit virucide. Le midi, se changer complètement avant de rentrer à la maison, dans un garage, dans un local aménagé, avant de rentrer dans son domicile. Et le soir, se mettre nu, mettre tous ses linges dans la machine à laver à 60 degrés, prendre sa douche et s'habiller en habit de ville. Voilà ce que devrait être le quotidien de chaque professionnel de santé qui se rend à domicile de patients qui sont suspects actuellement d'un Covid. Je pense que c'est des choses qui sont difficiles, qui sont complexes à mettre en place, mais que vous allez prendre conscience de mettre en place au fur et à mesure que du besoin de le mettre en place au fur et à mesure que l'épidémie va se développer. Il y a aussi l'installation du poste de secrétaire qui a été modifié avec des protections supplémentaires par plexiglas. J'ai même vu des médecins qui maintenant mettaient un plexiglas sur leur bureau entre eux et le patient. Nos secrétaires sont en blouse et elles portent un masque qu'elles changent toutes les 4 heures. La voiture du médecin, maintenant, elle doit être une voiture considérée comme Covid+, et elle ne sera pas utilisée à autre chose que son exercice professionnel pendant toute la durée de l'épidémie, qui va, comme on l'a dit hier, durer un certain temps et un temps certain. Alors, effectivement, au sein de l'URPS, la totalité de notre activité, elle est désormais consacrée au Covid. Toutes les autres réunions, tous les travaux qui étaient en cours, etc., tout est arrêté. Et l'ensemble du personnel de l'URPS qui peut s'y consacrer se consacre actuellement à vous accompagner dans cette épidémie. On peut mettre un peu en place tout ça parce que vous l'avez certainement tous partagé. On a une baisse importante de l'activité, baisse conséquente de l'activité. Et c'est vrai que cette baisse, elle nous a permis aussi de réfléchir à des nouvelles organisations professionnelles. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce que j'ai dit ?
Non, ce que tu as dit, c'est extrêmement clair. C'est effectivement un peu idyllique parce que je pense qu'il est assez difficile d'appliquer tout ça. Mais enfin, ça donne la ligne directrice et vers ce quoi nous devons tendre.
Actuellement, mes derniers cas de Covid+, chez des patients âgés, ont tous été contaminés par une infirmière. Qui est maintenant Covid+, son associé l'est maintenant, donc ça va continuer. Donc mes 4 derniers patients Covid+, qui sont des personnes âgées, ont été contaminés par la même infirmière. Donc ça veut dire que ce fichu virus, il a un très haut pouvoir de contagiosité, dans des milieux particuliers chez des patients fragiles. Donc c'est vrai que si on ne veut pas être le vecteur de cette épidémie, il va falloir prendre des mesures importantes. Donc je vais répondre aux questions suivant mon niveau de connaissance par rapport à dans l'ordre qu'elles m'ont été posées. Est-ce que tu veux les poser, Michel ?
Non, parce que je pense qu'il y a des redites, je pense que tu peux tout à fait maîtriser. Je veux bien intervenir quand c'est nécessaire, mais pour l'instant, ton exposé me semble très clair. Ça a commencé par un truc essentiel qui est effectivement la prévention, la contagiosité, ça je pense qu'il fallait le dire. Tu as dit ce qu'il fallait dire, tout en sachant qu'effectivement, il ne faut quand même pas s'imaginer que tout le monde va y arriver. Mais enfin, on va tendre vers.
Voilà. Alors, on nous a demandé, d'abord, il y a plusieurs scores sont à notre disposition pour orienter le patient. Quel score peut-on utiliser qui soit harmonisé avec les équipes urgentistes pour éviter d'encombrer les urgences et les services de radio pour TDM thoracique? L'harmonisation des pratiques est la clé de notre prise en charge. Alors, il y a une quinzaine de jours, et on l'a retransmise, il y a une grille qui a été transmise par le CDO et le Conseil de l'Ordre, qui est une grille qui avait été faite par la MSU du Sud Gambrésie selon les recommandations de l'ARS Île-de-France et la conférence du professeur Stenville du 19 mars, et qui avait été complétée par des ORL à partir du 20 mars. Si je l'ai retransmise à Michel, il pourra vous la transmettre. elle reprend quatre volets. Le premier, c'est l'identité du patient. Enfin, voilà. Il y a un premier volet avec l'examen clinique, il y a les signes de gravité et les comorbidités. Elle est partagée ensuite en trois consultations. La consultation numéro un, celle où vous rencontrez le patient pour la première fois. La consultation à 48 heures s'il y a comorbidité ou à 4 jours s'il n'y a pas de comorbidité. Et ensuite, l'examen à 7 ou à 14 jours suivant les cas. Elle est assez bien faite et elle reprend en partie le score QSOFA, parce que le score QSOFA, c'est celui qu'utilise l'hôpital Dron. Alors, c'est une grille, le QSOFA, c'est une grille très très simple qui est basée sur trois critères uniquement. Le premier, c'est la fréquence respiratoire, l'évaluation de la fréquence respiratoire, l'évaluation de la tension systolique et du score de Glasgow. Donc, c'est une grille, cette grille QSOFA, qui est une grille simplifiée, c'est une grille d'admission en service de réanimation. Alors, les trois critères qui sont retenus, c'est un rythme respiratoire supérieur à 22 par minute, une tension artérielle inférieure à 90, une systolique inférieure à 90, et un Glasgow inférieur à 15. Donc, c'est une confusion. Le QSOFA est positif à partir du moment où deux de ces trois critères sont retenus. Je crois que cette grille, elle est essentielle pour les services d'urgence, pour une admission en service d'urgence. Par contre, je pense que les décisions d'hospitalisation, elles se feront, pour notre part en tant que médecin généraliste, essentiellement en fonction d'abord des symptômes qui sont plus ou moins spécifiques du Covid et surtout des facteurs de risque. Moi, j'hésite pas quand j'ai une température brutale, d'installation brutale, associée à des signes respiratoires qui soient hauts ou bas, à des céphalées importantes, des courbatures, avec une altération d'état général, si j'ai un seul facteur de risque à hospitaliser le patient. Je pense que, et la grille qui a été transmise, là, qui va vous être transmise ou que vous avez déjà reçue, elle permet vraiment d'établir ce diagnostic et de relever les comorbidités. Donc les comorbidités, elles sont nombreuses. Hein. C'est un IMC supérieur à 40, c'est un âge qui est supérieur à 70 ans, c'est une insuffisance respiratoire ou un asthme déséquilibré, une BPCO ou un patient sous O2, une mucoviscidose, une insuffisance rénale ou un patient dialysé, une insuffisance cardiaque au stade 3 ou 4, une cirrhose au stade B, un diabète insulino-dépendant ou insulino-requérant compliqué, des antécédents d'hypertension artérielle, d'AVC, d'infarctus du myocarde, tout patient cancéreux, toute chimio en cours, tout traitement immunosuppresseur, toute greffe d'organes et les femmes enceintes. Donc c'est quand même très très large hein, comme comorbidité. Donc je pense que le diagnostic déjà de Covid n'est pas facile et je ne pense pas qu'il faille attendre un diagnostic de certitude quand on a des facteurs de comorbidité et un patient qu'on ne sent pas très bien pour l'adresser aux urgences. Donc, ça me paraît très, très important de veiller à ça. Après, ça dépend un peu de l'accès que vous avez aux services d'urgence, quelle est la facilité que vous avez encore. Sur notre secteur, on n'est pas débordé, les choses ne se passent pas trop mal, donc je ne sais pas comment ça se passe chez vous, sur ce plan-là. Michel, vous avez...
Bah, écoute, l'hôpital Dron, il a toujours été débordé, je ne pense pas que ça aille en s'arrangeant. C'est bien pour ça que la maison médicale de garde est là pour dégorger, mais ça reste quand même difficile.
En plus, ça reste difficile.
Comme tu l'as bien fait remarquer, c'est quand même le centre de référence pour les maladies infectieuses. Alors évidemment, Enfin, pour l'instant, il y a une cellule, il y a une filière Covid spéciale aux urgences et les services hospitaliers ont été fermés justement pour pouvoir recueillir des Covid. Enfin, c'est quand même. Pour l'instant, on tient, quoi.
Pour l'instant, on tient. Chez nous, il y a eu une grosse baisse d'activité du service d'urgence, en dehors des Covid. D'ailleurs, il y a un retard au diagnostic. Hier, on a eu une conférence d'une heure avec Patrick Goldstein. Il y a un gros retard d'accès aux soins actuellement. Il nous demande d'être très, très vigilants, de rappeler nos patients qu'on savait instables pour savoir comment ils allaient, parce qu'ils voient arriver des infarctus au troisième jour. Ils ont vu réapparaître des péritonites appendiculaires pour des diagnostics tardifs d'appendicite. Ils ont vu arriver des AVC à 3-4 jours, des embolies pulmonaires tardives. Donc, ils nous disent qu'il y a une grosse baisse d'activité dans tous les cabinets. Si je prends rien que l'exemple de mon épouse qui est angiologue, elle voyait régulièrement des patientes, des suspicions de phlébite chez des femmes enceintes. Depuis le début de l'épidémie, elle n'en a pas vu. Ça veut dire qu'il n'y en a pas moins, mais qu'elles ne sont pas diagnostiquées. Donc, des risques d'embolie pulmonaire qui traînent un peu partout. Donc, on nous demande d'être très, très vigilants. Le message qui a été donné par notre Premier ministre de ne plus aller voir son médecin, à un moment donné, a freiné l'accès aux soins. Et je pense que pour revenir en arrière, ça va être assez compliqué. Il va falloir qu'on soit très, très, très vigilants sur ce... Très vigilants là-dessus. Voilà, voilà.
Donc le message que j'ai passé, c'est que le Covid ne doit pas effacer tous les autres et qu'il ne faut pas oublier que nous avons des malades chroniques qui demandent un suivi régulier et important.
Michel, c'est Nicolas.
Oui, bonjour Nicolas.
Moi, je ne procède pas comme ça pour mes patients avec une comorbidité. Moi, je préférerais plutôt un suivi infirmière pour chercher un petit peu l'aggravation de la symptomatologie parce que pour un Covid, c'est quelqu'un qui a des facteurs de risque, mais qui n'a pas de signe de gravité. Pour l'instant, l'hôpital, je ne suis pas sûr qu'il les prenne.
Ah non, mais je n'ai pas dit. Hein. J'ai dit qu'en cas de facteurs de gravité. Hein.
Non, mais enfin, moi, j'avais compris aussi les facteurs de risque avec de la fièvre. Ah non. Et puis,
Non, j'avais beaucoup insisté au départ sur les signes de gravité. Hein. Mais je n'attendrai pas des signes de gravité chez un patient avec comorbidité pour l'adresser.
Ouais, moi, c'est la réflexion. En fait,
il y a quelqu'un qui fait du bruit avec sa vaisselle. Il est prié de couper son micro ou d'arrêter de faire la vaisselle, s'il vous plaît.
Oui, c'est pénible, les bruits de vaisselle, c'est vrai.
Moi, je trouve qu'il faut surtout raisonner en termes de clinique très importante. Après, la comorbidité, elle peut faire accélérer la chose. Mais c'est surtout là, la clinique qui prime. Bon, c'est vrai que les patients avec des comorbidités, ils vont se dégrader plus vite, ça, c'est clair.
Avec toi, Nicolas. Le seul problème, en tant que médecin régulateur au CMU, on y est très sensible. Il ne faut pas oublier de poser les autres questions pour s'assurer qu'il n'y a pas autre chose que le Covid. Et c'est vrai que c'est un piège.
Et alors, moi, cet après-midi, j'ai essayé de faire hospitaliser un patient. La réponse que j'ai eue très étonnante du 15, c'est quand même que maintenant, on appelle les services d'urgence pour savoir s'ils sont en capacité à recevoir le patient. Ça, c'est sorti depuis aujourd'hui, visiblement, parce que les urgences sont saturées.
Oui, c'est très variable. Alors, c'est très variable. J'ai échangé avant de venir avec les urgentistes un petit peu sur notre secteur. Ils m'ont dit que c'était très variable d'une heure à l'autre, d'un moment à l'autre. Donc, tout dépend de l'aval. Hein, les urgences, ça a toujours été comme ça. Tout dépend de l'aval. S'ils ont de l'aval disponible, ils peuvent très facilement accepter nos patients. S'ils n'ont pas d'aval disponible, ça devient très, très compliqué. Ils ne veulent pas encombrer un service d'urgence avec un patient qui peut encore rester à domicile. Voilà un petit peu ce qui nous a été dit. Et c'est vrai que appeler directement les services d'urgence pour savoir si les patients peuvent être admis, ça peut être le cas. Il faut savoir que chez des patients très âgés, les symptômes peuvent être très légers. Très particulier. Ma dernière patiente, c'est une dame de 96 ans. La seule chose, c'est qu'elle ne s'était pas levée le matin au passage de l'infirmière. Son fils m'a appelé, je suis arrivé chez elle. À 14h, elle était encore dans son lit. Elle n'avait ni déjeuné, ni dîné le midi. Elle avait pourtant une statue à 96. Elle n'avait pas de température. à part une rougeur de visage et une asthénie très importante, elle n'avait pas d'autres symptômes. Elle a été hospitalisée. Il s'avère que c'est un Covid et qui s'est aggravé dans les heures qui ont suivi. Donc, c'est vrai que les symptômes sont quand même, chez la personne très âgée, sont très particuliers, peuvent être assez...
Je ne sais pas quel est celui qui fait du bruit derrière, mais c'est quand même très, très, très pénible. Très, très, très pénible. Qu'est-ce qui fait tac, tac, tac? Il y a quelqu'un qui fait du bruit, là. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à le déceler, autrement j'en dirais. Mais c'est quand même très pénible. Pensez aux autres.
Donc, je rappelle les trois signes de gravité hein, qui étaient retenus par justement l'hôpital Dron. C'était fréquence respiratoire supérieure à 22, tension en dessous de 9 et Glasgow inférieure à 15. Donc, dans ce cas-là, vous devez quand même avoir recours à l'hospitalisation. On m'a posé comme question... prise en charge de la diarrhée dans le Covid. Alors, après renseignement, bon, la diarrhée, c'est un symptôme. Et comme tout symptôme, le traitement doit rester symptomatique. Donc, ça n'est pas, y a pas de prise en charge particulière de la diarrhée dans le Covid. Sauf dans le cas où votre patient est sous immunosuppresseur, où là, on vous conseille quand même de faire une coproculture systématique afin d'éliminer une autre cause, mais sinon, c'est la prise en charge d'une diarrhée symptomatique avec des traitements symptomatiques. Alors, vous aviez posé la question, sur quels critères faut-il envoyer des patients aux urgences? Il faudrait interroger les urgentistes. Donc, je pense que, effectivement, les contacter, ça nous paraît, tu l'as dit tout à l'heure, les contacter paraît, c'est une très bonne attitude. Mais ce qui est aussi important, c'est d'échanger vos expériences locales. Et j'ai vu que dans votre groupe WhatsApp, vous le faites régulièrement. Et je pense que l'expérience de chacun dans une épidémie qui est toute récente est extrêmement importante et qu'elle sert aussi de... Certains vont être un peu modérateurs dans les pratiques et que ça va certainement réguler le fonctionnement. Je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus, et je ne sais pas ce que tu en penses, Michel, d'appeler la régulation pour avoir aussi le conseil d'un régulateur qui, à longueur de journée, doit faire des choix. Moi, c'est une attitude que j'adopterais si j'avais un cas où je me posais vraiment la question.
Oui, oui, ben ça c'est évident. Et de toute façon, au sein de notre groupe, en plus, nous sommes pas mal à travailler en tant que régulateur au SAMU, donc on connaît un petit peu les réponses. Donc on répond également sur le site de temps en temps, quelquefois on donne quelques coups de fil. Mais et nous-mêmes, quand nous sommes des médecins libéraux, mais quand on a des difficultés, on demande à nos amis du 15 qui sont dans la même salle, un petit peu plus loin. Donc c'est certain qu'on ne peut pas tout savoir et il y a des fois des décisions qui sont difficiles à prendre et il ne faut pas hésiter à poser des questions.
Ok. Vous avez posé aussi une question sur l'accès aux spécialistes, mais je vais attendre que Madame Depot arrive parce que à l'URPS, on va essayer de mettre en place une réponse pour ça. Vous avez parlé beaucoup du dépistage. Alors, quelle est la place du dépistage? On parle de 50 000 personnes qui auraient été dépistées. On nous demande s'il existe toujours des centres de dépistage. Est-ce qu'il faut appeler le 15 pour un dépistage? Est-ce que les laboratoires de ville peuvent faire des dépistages? Allô, oui? Allô?
Oui, j'avais coupé la chic à tout le monde, mais oui. Le problème, c'est que ça te coupe la chic à toi aussi, ce qui est plus ennuyeux. Donc, j'ai remis le parce que je ne sais toujours pas quel est l'enquiquineur qui fait du bruit, parce que je t'assure que si j'arrive à le coincer, ça va marmer.
Tu vas acheter ta Kalachnikov?
Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est vachement égoïste comme situation, si tu veux. C'est vraiment un enquiquineur. Hein. Donc, tu peux reprendre la parole.
Alors, je reprends la parole sur le dépistage. Alors, donc on a deux réunions par semaine avec l'ARS, une réunion pratiquement toutes les semaines avec les centres 15. Les choses, évolue chaque jour et parfois plusieurs fois par jour. Ce qui est vrai ce soir à 20h30 ne le sera peut-être plus demain matin. Bon. Ce qu'on peut vous dire, c'est que les capacités de test évoluent de façon très rapide et vont encore évoluer de façon très très importante la semaine prochaine, a priori. Il y aurait un très très gros centre de dépistage qui devrait se mettre en place dans la région. Donc, les indications vont évoluer. Pour l'instant, on continue à respecter les recommandations. Donc, test pour les patients symptomatiques avec au moins un facteur de gravité, à condition que le test modifie votre prise en charge. Donc, c'est ce que dit le 15. Si le test ne modifie pas la prise en charge, on ne voit pas très bien l'intérêt de le faire. Si le diagnostic, si vous avez une anosmie, etc., est pratiquement un diagnostic de certitude, on ne voit pas très bien l'intérêt du test actuellement. Il y a aussi un test recommandé pour l'ensemble des soignants de l'ambulatoire et donc et des personnels des EHPAD. Alors, les soignants de l'ambulatoire, je vous le rappelle, hein, notre expérience, elle est cruelle. Je pense qu'un soignant Covid plus ne doit plus avoir d'activité professionnelle au contact des patients. Il doit se retourner vers une autre activité, un télétravail, etc., parce que les soignants sont vecteurs. Donc, c'est important de les dépister.
Faut-il pouvoir être détecté dans les temps requis?
Alors, actuellement, ça se simplifie. Il y a un accès aux tests au sein des cabinets de biologie. Donc, il y a plusieurs centres qui se sont ouverts. Alors, je ne sais pas sur Tourcoing si vous en avez un. Michel?
Non, un cabinet à mon avis, ça va arriver sans problème.
Il y en a un à Ronchin.
Il y en a un à Waterloo également. Waterloo, Diagnovie,
semble-t-il. Diagnovie a ouvert, oui, c'est ça. Donc,
on a Ronchin, Waterloo, et puis également, je crois, Orchy.
Voilà. Donc, il commence à y en avoir. Et il y en a aussi sur le littoral aussi. Et il y aura très prochainement un très gros truc qui va permettre au laboratoire d'en faire beaucoup plus. Ça vous paraît un peu désorganisé, un petit peu tout ça, mais il faut savoir que on a la mémoire de l'expérience malheureuse des centres H1N1 qui avait été organisée par les tutelles, et on a retenu la leçon. C'est pour ça que les organisations actuelles, elles partent essentiellement de la base, et uniquement lorsque l'ambulatoire en ressent le besoin. La dernière fois, il y avait eu des centres H1N1 qui avaient été construits, il y avait énormément de personnel qui avait été mobilisé pour une activité qui avait été, somme toute, extrêmement réduite. Cette fois-ci, on est parti d'une organisation basée sur la désorganisation, et de ce type de fonctionnement, on arrive à des solutions auxquelles les professionnels de l'ambulatoire adhèrent. C'est un peu ce que vous avez fait dans votre centre dédié. A priori, alors je ne sais pas quel est le fonctionnement de votre centre, mais la politique régionale au niveau des Hauts-de-France, c'est surtout de ne pas se substituer au médecin traitant, qui doit rester dans tous les cas le premier recours. Nous l'avons précisé à la fois au centre 15 et au centre de régulation. En cas de suspicion d'un cas de Covid, en dehors des cas qui relèvent du SAMU, etc., le premier interlocuteur doit être le médecin traitant. Ensuite, c'est au médecin traitant de décider un petit peu sa réponse, parce que ça peut être limité par ses capacités d'accueil, car les capacités d'accueil des médecins libéraux dépendent à la fois de leur disposition de locaux, il y en a pour lesquels c'est difficilement concevable, il y en a d'autres pour lesquels leur santé personnelle ou la santé d'un proche va faire qu'ils vont essayer de se mettre au maximum à distance. Et il y a aussi la capacité ou non à faire du télésoin ou de la téléconsultation. Donc, je pense qu'il reste, ça devrait rester dans l'acte du médecin traitant de décider d'orienter ou non son médecin vers le centre dédié. C'est un peu le fonctionnement chez vous, Michel ?
On ne peut pas te dire parce que chacun fait un petit peu à sa sauce. Hein. Moi, ce qui est certain, c'est que pour le moment, j'ai réussi. Mes patients, jusqu'à présent, tiennent à la maison. Maintenant, je suis prêt à les envoyer plutôt directement aux urgences si nécessaire. Mais bon, je ne suis pas forcément représentatif.
Non, il y a une solution que l'on a mis en place à Touffelers, c'est qu'on a réussi à faire en sorte que la mairie nous laisse le parking uniquement pour les patients fébriles et tousseurs. Ce qui fait que tout patient fébrile et tousseur, on le sait, reste dans leur voiture, on leur donne un masque et c'est seulement quand ils sont masqués qu'ils rentrent dans le cabinet médical. Donc, ça permet de créer des possibilités de flux plus faciles à gérer.
Oui. Bon, je pense que c'est important. Je pense que chacun a essayé au sein de son cabinet de mettre en place. Nous, on a essayé de mettre en place au sein du cabinet toutes les consultations des patients pour des problèmes infectieux après une certaine heure, qui remonte un peu chaque jour. Mais bon, le screening reste quand même très difficile. On a quand même dans les consultations qui sont considérées comme des consultations a priori sans risque, on détecte quand même régulièrement un patient qui consulte pour autre chose, mais qui est en fait probablement porteur d'un Covid. Mais bon, c'est vrai qu'il est essentiel, votre expérience, elle est intéressante. Il y en a d'autres qui ont mis un numéro de téléphone sur leur porte du cabinet. Et le patient, en expliquant que la meilleure salle d'attente restait sa voiture, et le patient ne rentre dans le cabinet que sur appel du médecin donc, ou de la secrétaire. Donc, je pense que toute mesure qui va permettre aux patients de ne pas se croiser dans les salles d'attente, de ne pas attendre dans les salles d'attente, etc., est une bonne solution. Il y en a d'autres qui ont agencé leur agenda en faisant un rendez-vous physique de téléconsultation, Et il y en a qui vont à l'extrême. Dans la région de Maubeuge, beaucoup de cabinets ne font plus du tout de consultation et ne font que de la téléconsultation. Estimant que la plupart des actes peuvent être faits en téléconsultation ou en télésoin. Donc, vous voyez, je pense que dans la région, chacun va s'adapter et qu'aucun exercice, nous, on n'en privilège aucun. Je pense que vous êtes les mieux à même de décider l'exercice qui correspond le mieux à votre activité. Ensuite, sur les dépistages, il y avait encore une question. Un dépistage de masse par sérodiagnostic est-il en projet ? Alors, oui, il y a un dépistage de masse qui est en projet. Oui, il sera bientôt possible de faire un sérodiagnostic. Il y a des anticorps qui sont marquant la trace du Covid. Par contre, sur le rôle du dépistage massif pour entraîner le déconfinement, les épidémiologistes ne sont pas tous d'accord. On s'orienterait plutôt vers un déconfinement progressif lorsque le nombre d'entrées en service de réanimation sera divisé par 2 France entière chaque jour. Donc, et ce, plusieurs jours de suite.
Attends, donc, divisé par 2 chaque jour,
plusieurs jours de suite. Ça vous mène un déconfinement, alors ça c'est au niveau national, donc ça vous mène un déconfinement à une période lointaine.
Hein. Lointaine.
Voilà. Donc quand on entend des bruits sur le fait
progressif.
Ouais. Ouais, suivant les professions, etc. Et quand on commence à entendre des bruits selon lesquels les enfants ne reprendront pas l'école avant septembre, c'est possible. Quand vous entendez qu'on annule Wimbledon qui a lieu début juillet, je crois, hein, ça vous donne un peu une idée de la durée du confinement. Ça risque d'être long. On s'engage, hier, c'est ce que disait Patrick Goldstein, on s'engage dans un temps long. Ne pensez pas que les choses que vous mettez en place, c'est pour 2 semaines, 3 semaines. Non, on s'engage dans un temps long. On continue à voir augmenter les cas de façon progressive. Dans aucun territoire, il y a diminution. Le premier territoire touché, c'est l'Oise. C'est encore le territoire où il y a le plus d'admissions dans notre région en réanimation. Donc, et ils sont déjà à plus d'un mois du début du confinement. Donc, au bout d'un mois de confinement dans l'Oise, on n'a pas vu la diminution du nombre de cas graves. C'est-à-dire qu'il y a le délai entre le début des symptômes, le début de la contamination et l'installation des cas graves qui est décalé, et l'admission en réa qui est encore un peu décalée. Donc, pour l'instant, au bout de 4 semaines de confinement dans l'Oise, on n'a pas encore de résultats vraiment probants sur la baisse du nombre de cas. Vous avez posé une question sur l'indication du scanner. Alors, effectivement, c'est pas des publications, c'est plutôt des échanges entre radiologues qui nous montreraient que le scanner low dose, alors, qui permet de faire un scanner thoracique avec une dose équivalente à une radio de thorax, permet des diagnostics à des stades post-symptomatiques. Ça, c'est un échange entre différents imageurs. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas d'études publiées sur le fait que ces diagnostics précoces par scanner low dose modifient la prise en charge des patients. Donc, adresser un patient à un scanner low dose risque d'encombrer les scanners et vu le développement et l'accès plus facile au diagnostic par PCR, on n'en voit pas bien l'intérêt. Il y a quelqu'un qui veut réagir, celui qui avait posé la question sur là-dessus.
Je peux poser une question?
Oui. Oui.
Quand un patient, on arrive à J7, J10 et qui s'aggrave, mais avec une auscultation, une saturation à peu près normale, mais extrêmement fatigué, avec une forte température. Est-ce que, justement, à ce moment-là, l'indication d'un scanner thoracique, pour voir s'il ne commence pas à développer une pneumopathie que je n'arrive pas à écouter avec mon stéthoscope, ne reste pas une bonne indication pour l'hospitaliser, justement?
Alors, c'est une excellente question. Quelle est la place du stéthoscope dans l'auscultation du patient Covid? Ben, les infectiologues qu'on a interrogés nous disent que ce n'est pas un très très bon examen. L'auscultation va vous permettre d'identifier des pneumopathies d'autres causes. Donc, ce qu'on appelle les pneumopathies post-grippales que vous allez soigner par augmentin, mais pas vraiment le poumon du patient Covid, où l'auscultation peut être pratiquement normale. Donc, il faut beaucoup plus vous fier à son rythme respiratoire, à ses douleurs thoraciques, parce qu'apparemment, les gens se plaignent de douleurs sur les côtes. Ils mettent leurs deux mains sur le bas du thorax en disant « ça me fait mal à chaque fois que je respire », alors que l'auscultation n'est pas très, très marquante. Et par contre, vous voyez leur saturation baisser. Alors d'où l'intérêt, on en parlait tout à l'heure, de la surveillance par les infirmières à domicile. Si vous envoyez les infirmières à domicile passer 2 fois par jour et qu'elles mesurent la satu, elles peuvent se rendre compte d'une baisse de la saturation et là, ça peut être ça peut vous révéler une forme grave. Alors, effectivement, si ton radiologue est disposé et que tu arrives à le contacter, à te faire un scanner, le scanner peut être à ce stade-là un élément décisif sur la prise en charge hospitalière.
Encore un intérêt de la téléconsultation.
Pardon ?
Encore un bel intérêt de la téléconsultation.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que dans les EHPAD, etc., avec une infirmière qui pourrait prendre la saturation, c'est très intéressant de faire de la téléconsultation pour ne pas justement, pour limiter les allées et venues dans les EHPAD. On sait très bien diagnostiquer une fréquence respiratoire supérieure à 22, on peut demander une saturation. Je trouve qu'on devrait développer vraiment la téléconsultation dans tous les foyers logements, maisons de retraite, EHPAD, de manière bien plus efficace, quoi, quand on voit ça.
Ben, nous, on l'a bloqué il y a 15 jours. On a arrêté d'aller dans... On a décidé, parce qu'on avait fait une cellule de crise sur Armentières, et on a prévenu les 80 médecins du secteur. On n'a plus fait aucun contact dans aucune EHPAD du secteur. Ben oui. Ben oui. 15 jours. On fait de la téléconsulte avec les infirmières, on leur envoie des grilles à remplir quand elles ont une suspicion. Et franchement, on a... Alors, c'est démontré, hein. Il n'y a pas de gain. Alors, c'est pour ça qu'à Maubeuge, ils ont décidé de ne plus faire de consultation pour les patients suspects Covid, et simplement faire de la téléconsultation, parce qu'on n'a pas montré de gain de l'examen clinique sur le patient par rapport à la téléconsulte. Donc, ça a été prouvé. Bon, il y a des territoires où les gens n'ont accès qu'à la téléconsultation depuis longtemps, hein, dans les pays nordiques. Quand vous avez votre patient qui habite à 600 km de chez vous, la téléconsultation, elle est installée depuis très longtemps. Et effectivement, on n'a pas de gain à l'examen clinique dans cette pathologie-là. Le seul gain, c'est la pneumopathie de surinfection d'un épisode grippal, où là, vous allez avoir vraiment un foyer de PFLA à l'auscultation qui est net et franc. C'est le seul... mais c'est pas dans le cadre du Covid, c'est plutôt dans le cadre d'une complication du Covid. Mmh. D'accord. Donc,
En téléconsultation, quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que la fréquence respiratoire, c'est un élément extrêmement important, et la cyanose également, hein, voir s'ils ont les lèvres bleues, les ongles bleus, etc.
Voilà.
Ouais. Et en plus, comme tu le signalais très bien, l'oppression de la base thoracique qui est un élément extrêmement important. Et ça, bien évidemment, c'est des signes de décompensation. Ça veut dire hospitalisation. Parce qu'en fait, comme on n'a pas grand-chose à faire, notre décision, c'est de savoir quand il faut hospitaliser.
Exactement. Exactement. C'était une des questions qui avait été posée, hein, qui est reposée une deuxième fois. Quels sont les critères d'hospitalisation? Donc, on est toujours d'accord, les critères d'hospitalisation, c'est la grille QSOFA, la fréquence respiratoire qui est supérieure à 22, toujours la même chose, la tension qui est inférieure à 10 quand elle chute entre deux évaluations, la température inférieure à 36, la saturation inférieure à 90 ou qui chute entre deux évaluations, une somnolence. Ça, c'est tous les critères qui doivent vous faire amener à une hospitalisation.
Le seul problème, c'est que la saturation au téléphone, c'est pas possible. Il faut poser d'autres signes cliniques qui sont donc la couleur des lèvres.
Alors, il y a un moyen. Il y a un moyen que nous on a proposé. C'est la durée de l'apnée. Alors ça, en téléconsultation, c'est très facile à faire, la durée de l'apnée. Et le deuxième critère que tu peux faire, c'est le comptage sans interruption. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce que c'est le comptage de l'apnée? Explique-moi ça un petit peu.
C'est la durée de l'apnée. Tu demandes à ton patient d'arrêter de respirer et tu notes sur ta grille de surveillance la durée de l'apnée.
Et alors, elle est pathologique à partir de quand?
Elle est pathologique quand elle baisse. Donc, ce qu'il faut, c'est l'évaluer à J0. Quand tu vois le patient pour la première fois, souvent, il est très peu symptomatique. Et là, tu évalues la durée de l'apnée. Chez un patient adulte de notre âge, elle monte à 60-65 secondes. Chez une femme pas trop sportive, elle va être à 30-35. Mais ce que tu notes surtout, c'est sa diminution de la durée de l'apnée. Le comptage est plus facile à faire quand même que la durée de l'apnée.
Oui,
le comptage les patients savent très très bien le faire.
Ils ne comptent pas tous à la même vitesse, si bien qu'il faut, noter... pour chaque patient, quelle est sa vitesse d'admission?
Exactement, pour noter à chaque patient quelle est sa fréquence respiratoire.
Je pense que c'est des messages extrêmement intéressants que tu donnes là, parce qu'effectivement, on dans le vif du sujet, hein, la fréquence, le fait de compter, l'apnée, voilà, ça c'est des éléments, c'est des critères importants.
Alors, bonsoir.
Bonsoir. Oui, Rania, médecin généraliste, une petite question. Le comptage sans interruption, ça se passe comment?
Alors, je le fais. Je respire à fond et je fais
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, et là,
voilà.
Et donc, tu notes 68.
Ouais.
Voilà. Et
d'accord,
donc, tu fais refaire plusieurs jours de suite. Et c'est la baisse.
Ok, très bien, merci.
Et ça, effectivement, sans saturation, c'est facile à faire. D'accord. Bon. Oui, donc... alors, question suivante. Comment ça se passe à l'hôpital de Tourcoing-Roubaix? C'est une question, là, je me suis dit qu'il y a Michel qui peut répondre.
Non, il faudra demander à Nicolas, qui est beaucoup plus à même, parce que c'est lui qui a négocié tout ça. Avec, il y a David Fournet également qui doit être au téléphone. Ils ont beaucoup plus travaillé que moi.
Hein. Oui, ils veulent
Nicolas,
y répondre.
Nicolas, tu peux reprendre la parole, si tu veux.
L'hôpital de Tourcoing, les urgences, j'ai pas eu beaucoup de nouvelles ces derniers jours. Ça surtout, il y a une saturation de l'AREA qui est certaine. Dans les services de l'hôpital, moi, ce que j'ai eu comme retour, c'est que la maladie infectieuse, c'est plein. La cardio, c'est plein. Ils ont ouvert une aile en gastro le week-end et elle est déjà pleine. Et là, ils prévoient de se déployer sur Malatré pour des nouvelles unités de patients. Et ça comprend pas la filière gériatrique qui est gérée par la gériatrie de l'hôpital. Donc après, moi, j'ai eu des retours aussi d'ambulanciers sur l'hôpital de Ouattrolo où apparemment, cet après-midi, c'était très compliqué. Mais après, je ne sais pas si les sources sont certaines. Hein.
D'accord. Est-ce voilà. qu'ils ont prévu une filière spécifique comme recours pour les EHPAD avec des SSR réservés Covid pour les patients qu'on ne pourra pas laisser en EHPAD et qui auront besoin d'un certain nombre de soins, même si c'est des soins de confort?
Visiblement, le service de gériatrie est quasiment... c'est scindé en deux. Hein. Il y a une unité un peu Covid et une unité non-Covid dans le service de gériatrie. Après...
là, on reste dans des soins actifs. Là, on est dans des
soins
actifs.
Oui, alors après... Ouais, mais alors,
dans les soins de confort.
Gère tout le SSR. Et Malatré, c'est un centre de rééducation. Donc, peut-être qu'il y aura... unité pour ces patients-là. Après, je sais aussi que dans toutes les maisons de retraite du coin, les médecins gériatres sont d'astreinte et font une permanence pour toutes les prises en charge difficiles de patients Covid dans les EHPAD.
Oui. Alors oui, par secteur, il y a un médecin gériatre référent chaque jour, 24 heures sur 24, qui peut répondre aux questions.
Ça m'a été confirmé par les gériatres de la Victoire.
Tout à fait. Alors, oui, parce que là, on est toujours dans le soin actif. Hein. J'ai aussi ma casquette de médecin responsable d'un réseau soins palliatifs. Et on essaye de mettre en place un accompagnement et une prise en charge sur le plan régional qui va être assez harmonisé. Pour l'instant, au niveau des EHPAD, la doctrine commence à évoluer à cause de l'expérience de l'Oise. Hein. Il faut savoir que dans l'Oise, à Crépy-en-Valois, il y a eu 17 morts dans la première EHPAD touchée. On en a assez peu parlé. Donc, l'idée serait d'extraire le premier patient suspect Covid afin, justement, quand il est identifié, de ne pas contaminer. On s'est rendu compte que isoler un patient dans une EHPAD, c'est techniquement totalement impossible. Les personnels ne sont pas formés au confinement. Et c'est extrêmement difficile et on a une transmission au sein des EHPAD qui est extrêmement rapide. Donc, l'idée serait de transférer le patient zéro dans une unité, dans un SSR pouvant accueillir ce type de patient, même si l'état du patient ne relève pas de soins actifs. Au départ, la théorie était un peu différente. C'était de dire pour ceux dont les soins sont actifs ne sont pas possibles, on va les conserver au sein de l'EHPAD et on fera des soins des soins palliatifs au sein de l'EHPAD. Il faut savoir que a priori, les patients COVID en soins palliatifs ont besoin d'un minimum d'oxygène et que la plupart des EHPAD n'en sont pas équipés. Il n'y a pour l'instant pas d'infirmière de nuit dans les EHPAD. Vous pouvez difficilement mettre en place un traitement par imidazolam ou des choses comme ça s'il n'y a pas d'infirmière de nuit. Les HAD ne pourront pas prendre en charge la totalité des résidents en EHPAD. Donc, on essaye de trouver des solutions alternatives qui seraient donc le fait d'avoir dans chaque hôpital des SSR entre guillemets dédiés Covid, parce que bon, ils n'ont pas de post-chirurgie actuellement. Il n'y a pas de rééducation post-chirurgicale étant donné qu'il n'y a pas de chirurgie. Donc, il y a des lits un petit peu disponibles pour accueillir ce type de patients. Donc, si vous avez des patients qui sont suspects Covid en EHPAD, si c'est le premier cas de l'EHPAD, je pense qu'il faut faire en sorte, en accord avec l'hôpital de référence, de l'extraire de l'EHPAD le plus rapidement possible afin de limiter la diffusion. Vous travaillez comme ça. Est-ce qu'il y a des médecins qui travaillent, qui sont médecins coordonnateurs d'EHPAD ici au téléphone ou pas? Non.
Pardon, il y a des EHPAD où on n'a plus le droit d'y aller. Que ouais. Voilà.
Donc, voilà.
Bertrand, Madame Depeau nous a rejoint.
Ah, alors si Caroline nous a rejoint, à quel moment elle veut intervenir pour présenter l'organisation qu'on a mis en place au sein du RPS? Est-ce que ça vous intéresse d'abord de savoir ça?
Savoir comment accéder aux spécialistes à l'ordre d'aujourd'hui, et j'assure que pour nous, c'est un vrai problème.
Hein. L'accès à quoi?
L'accès aux spécialistes.
Oui, alors...
Après, moi, Caroline... j'ai juste une question pour les EHPAD.
Oui.
Juste pour finir. Du coup, si notre patient, ce n'est pas le premier ou le deuxième, tous les autres patients sont censés maintenant rester ou ça se passe comment?
Alors, monsieur Demory, si je peux compléter, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas une saturation des SSR, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas encore accepté. Il y a beaucoup de territoires où il n'y a pas du tout de saturation des capacités pour accueillir les personnes, les personnes résidentes EHPAD chez Covid+. L'option de dire on n'envoie que les, on va dire que les deux premiers, c'est surtout il y a urgence à extraire les personnes qui sont même, au début des symptômes, c'est-à-dire dès le moment de l'anosmie, etc., de pouvoir les sortir dès qu'il y a la suspicion. De négocier avec le gériatre pour pouvoir les prendre en charge le plus possible, et dès lors qu'il y a le début d'une de service qui serait saturé, de voir comment on peut réorganiser les EHPAD où normalement les médecins coordonnateurs, on est vraiment en train d'essayer de travailler avec eux pour qu'en effet ils aient ou dédié une aile spécialisée dans leur établissement, ou qu'ils aient travaillé en intelligence avec d'autres structures qui sont à côté d'eux. On a des établissements qui accueillent des personnes handicapées qui ont fermé et qui sont en mesure d'avoir, par exemple, de l'oxygène, de voir comment on pourrait intelligemment travailler avec des structures qui sont fermées mais qui peuvent accueillir, faire des espèces de structures Covid+, pour ces personnes-là. Mais ça demande un décloisonnement de structures qui financent différemment entre le département, l'agence, etc. Voilà, il y a quelques freins... organisationnel, mais non. C'est ce qui se dessine pour arriver à donner la réponse la plus optimale.
Voilà. Actuellement, le frein est le suivant. En service de SSR, on est dans le régime assurance maladie. Donc, c'est pris en charge comme une hospitalisation. C'est-à-dire que pour un patient en ALD, tous nos patients en maison de retraite ont l'ALD polypathologie. S'ils ne l'ont pas, c'est que vous n'avez pas fait la demande, mais s'ils sont en maison de retraite, ils ont obligatoirement l'ALD polypathologie. Donc, dans ce cas-là, en SSR, les seuls frais à charge sont le forfait journalier. À partir du moment où on va les adresser dans des services qui ne sont pas des SSR, il y a un prix de journée qui va se cumuler au prix de journée en maison de retraite. Et ça peut être très compliqué. Donc, on est en train d'essayer de lever, on a levé ça avec l'ARS comme frein. Et ils essayent de négocier avec le conseil général, etc., avec l'ensemble des structures, pour qu'on ne soit pas bloqué par cela. Mais ça devrait se mettre en place très très rapidement. Je vous assure que les agences, on connaît la nôtre, mais
Elles mettent tous les moyens possibles pour que les choses, tous les verrous administratifs, etc., soient levés, quelles que soient les circonstances. Donc, elles font un très, très gros travail dans ce domaine.
Et c'est vrai que vous avez... C'est vrai que sur les EHPAD, il y a une focalisation importante et nécessaire sur les EHPAD, mais des derniers chiffres qu'on obtient, parce que tous les jours, on nous donne notamment les personnes qui sont testées positives plus dans tous les établissements médico-sociaux et sociaux. Les EHPAD, certes, il y a des cas, il y en a quelques-uns, mais les chiffres qu'on avait encore ce soir, les chiffres où il y a le plus de nombre, c'est plutôt dans les structures sociales qui, pour le coup, n'ont pas la chance d'avoir un médecin coordonnateur et des médecins traitants qui vont avoir l'habitude d'y aller et qui se retrouvent en grande difficulté. Il y a quelques atypies, mais voilà, sur le secteur du littoral, il y a des appartements thérapeutiques pour lesquels il y a eu 96 cas dépistés positifs, 95 cas positifs. On a une masse pour lesquels il y en a 50. Enfin, voilà, je pense qu'il faut que vous ayez aussi une vigilance, si c'est possible, avec vos patients qui relèvent de ce type de structure et qui ont tendance à passer dans l'angle mort, en fait, des politiques de santé.
C'est-à-dire que, oui, les cas des EHPAD nous avaient tellement frappés qu'on a réagi rapidement et on a réussi à modifier les prises en charge suite à ça. Là, je pense qu'il faudra modifier les prises en charge dans les centres sociaux, dans ces établissements sociaux, et ça va être assez complexe. Donc, la question suivante, elle traitait de quel est l'intérêt du suivi ambulatoire par les IDE. Alors, le suivi par l'infirmière doit être bien pesé. Si le diagnostic est un diagnostic proche de la certitude, il ne faut pas hésiter à le faire. Hein. Parce que, par contre, si vous avez une forme extrêmement possi-symptomatique, etc., vous n'avez pas du tout de certitude, l'autosurveillance, elle reste supérieure parce que vous faites quand même, entre guillemets, passer régulièrement quelqu'un qui peut potentiellement transmettre la maladie au patient. Donc, si le diagnostic est un diagnostic de certitude, vous n'allez pas l'aggraver, n'hésitez pas, faites passer l'IDEL. Il n'y a pas de souci pour le patient, il y a un souci pour l'infirmière, mais c'est comme pour tous les professionnels de santé. J'ai vu certains médecins qui refusaient d'envoyer l'infirmière en disant « je ne vais pas envoyer une infirmière faire le geste que je ne veux pas faire ». Nous, on y va. Je pense que vous faites tous des visites à domicile pour certains patients qui ne peuvent pas se rendre au cabinet, différentes raisons. Donc, n'hésitez pas à la surveillance par l'infirmière si l'autosurveillance n'est pas possible. La prescription, elle se fait, vous pouvez faire deux fois par jour, 14 jours, dimanche, férié compris. Il y a un acte propre qui a été, à la nomenclature qui a été créée par l'assurance maladie. Je ne sais plus à combien ça correspond, mais il y a un acte spécifique pour les infirmières dans le cadre de cette surveillance. Donc, dès que vous estimez que l'autosurveillance ne sera pas réalisable pour des raisons de défaut de compréhension, parce que vous estimez qu'il est nécessaire chez ce patient-là de surveiller le pouls et la saturation et la tension, n'hésitez pas à faire une autosurveillance. En plus, une surveillance par l'infirmière. Et surtout, à lui préciser les signes d'alerte en lui remettant une grille qui permet à elle aussi d'identifier ces signes d'alerte et de vous prévenir s'il y a un problème. Voilà, on se souvient il y a quelques années des cahiers de surveillance de la glycémie par l'infirmière où on a injecté la même dose d'insuline, quel que soit l'état de la glycémie. C'est pas la peine d'envoyer les infirmières à domicile si vous n'avez pas précisé les critères pour lesquels elle doit vous informer et vous prévenir. D'accord ? Donc c'est un peu la même chose. Donc on a publié une fiche d'autosurveillance que j'ai complété un petit peu et que j'ai retransmis à Michel, il pourra vous l'envoyer. Je pense que vous avez la possibilité de vous transmettre un certain nombre de documents.
Bon, ben donc, ça, ce sera sur le site internet demain matin. Sur
ces d'accord, je te les ai transmis toutes les deux, tu pourras les mettre. Alors,
est-ce que je pourrais avoir accès à ce site internet, Michel, ou si tu peux me l'envoyer sur ma boîte mail?
Mais non, sur le site fmc-tour.org, tu auras comme d'habitude, comme après chaque formation, une synthèse de ce qui a été dit. Et éventuellement, on remettra peut-être l'amende sonore s'il n'y a pas trop de bêtises qui ont été dites. Et comme ça, tu pourrais réécouter et prendre un certain nombre de renseignements. Les fiches que signale la France sont tout à fait pertinentes et sont faciles d'utiliser. Donc, elles seront téléchargeables sur le site demain matin. Demain matin ou demain après-midi, il n'y a pas le temps que je mette en route. Quoi.
Oh oui,
c'est considérable.
Et en général, tu vas très très vite. Hein. Alors,
oui, absolument.
C'est vrai. Alors, difficulté dans la prise en charge des soignants hospitaliers et la problématique de la désertification des équipes soignantes ne pourrait-il pas être pris en charge en intra-hospitalier comme les AES, étant donné qu'il s'agit d'un accident de travail? Alors, je pense que la prise en charge des AES, c'est un domaine très très particulier. Dans le cadre des accidents de travail, c'est quand même nous les médecins qui faisons les déclarations datées. Hein. On reste médecin traitant. Il faut savoir que le médecin du travail, il reste salarié de la structure et il est identifié par le salarié comme tel. Et donc son rôle reste très complexe. D'ailleurs, nous, au sein de notre centre dédié, l'hôpital d'Armentières nous a demandé de voir des patients. Ils préféraient que dans le cadre du Covid, on les examine plutôt que la médecine du travail. Donc, voilà. Donc, là, ça résonne très fort. Je ne sais pas ce qui se passe.
Il y a quelqu'un qui a mis un haut-parleur. Ça, c'est tout à fait typique. Ouais.
Donc, le médecin du travail n'est pas toujours informé de la totalité des pathologies de vos patients, hein, du personnel de l'hôpital. Moi, j'ai nombre de patients qui ne veulent pas informer, même de pathologies graves, le service de médecine du travail, parce qu'ils ne veulent pas être mis à l'écart pour différentes raisons. Et on a tous des salariés qui ont ce type de comportement. Par contre... Je pense aussi que le médecin du travail ne connaît pas toujours ni l'environnement social, ni l'environnement familial de chaque salarié. Et que cette prescription d'arrêt de travail, c'est bien du rôle du médecin traitant. Et c'est quand même à nous d'analyser toutes les compétences et de prendre les décisions en notre âme et conscience. Effectivement, elles sont multifactorielles. Vous pouvez avoir des peurs paniques chez certains salariés du monde du soignant qui sont dans l'incapacité de faire des soins corrects à cause de cette peur panique. On essaye de les rassurer, mais si vous n'y arrivez pas, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas prescrire d'arrêt de travail. C'est vrai que c'est extrêmement difficile, mais on sait que dans ce genre d'épidémie, il y a des gens qui se sentent totalement démunis et c'est pas propre au Covid, ça a été comme ça dans tout temps. Dans les périodes de guerre, il y a des gens qui n'étaient pas des va-t-en-guerre et qui le sont devenus, et à côté de ça, il y a des gens qui étaient très affirmés et qui se sont enterrés dans le premier trou. Donc je pense que ça c'est incontrôlable et ça sera c'est vraiment à votre appréciation et en votre âme et conscience de le faire. Et c'est vrai que l'acte de prescription d'un arrêt de travail, c'est un acte médical, et ça reste un acte médical, et on a tenu tout le temps à ce que ça soit dans le rôle du médecin et du médecin traitant. Et c'est un rôle essentiel de notre activité, il a différentes fonctions. Et les dernières statistiques sur l'assurance maladie, maintenant que l'assurance maladie a nos arrêts de travail par voie électronique, ils se sont rendus compte que moins de 60% des usagers respectaient l'arrêt de travail prescrit à la fois dans sa durée et même dans sa prise d'arrêt de travail. Donc, contrairement à ce que vous imaginez l'assurance maladie et l'ensemble des patrons français, les travailleurs français sont loin d'être des fainéants. 60% des fois, quand vous prescrivez un arrêt de travail, le salarié n'ira pas jusqu'à la fin de l'arrêt de travail prescrit ou ne prendra pas l'arrêt de travail. Et ça, c'est des statistiques qui nous sont publiées maintenant depuis qu'on envoie les arrêts de travail par voie électronique.
J'interviens, Loïc Girard, j'interviens en centre Covid. Allô?
Oui.
Oui, on t'écoute, oui. Loïc.
Et je voulais savoir si, dans ce cadre-là, tu pensais pas que ça serait mieux que ce soit le médecin traitant qui prescrive l'arrêt de travail plutôt que le médecin qui travaille en centre Covid?
Tout à fait. Tout à fait. C'est une très, très bonne réflexion. Tout à fait. Madame Decaux, vous vouliez intervenir?
Oui, en fait, on a reçu beaucoup d'appels au niveau de l'Union sur des questions des arrêts de travail pour les conjoints ou les personnes qui vivent avec des personnes qui sont dans les critères de vulnérabilité qui sont énoncés par l'assurance maladie. Il y a aussi, et ce qu'on rappelle régulièrement tous les jours, tout n'est pas non plus de la responsabilité du médecin, il y a aussi de la responsabilité de l'employeur. C'est-à-dire que dans les conduites à tenir qui sont données, c'est notamment pour ces personnes-là et qui sont finalement pas à risque et qui sont pas malades et qui ont peur de contaminer leur conjoint, c'est bien spécifié qu'il y a lieu de privilégier le télétravail. Si le télétravail n'est pas possible, c'est du ressort de l'employeur aussi de mettre en place des mesures de chômage partiel ou de chômage technique.
On parlait essentiellement des personnels soignants.
Oui, mais c'est pour ça que je complétais aussi sur
les autres.
Oui, tout à fait.
Tout à fait. Mais oui, alors il y a trois modes possibles. Hein. Expliquez-nous un petit peu, Madame Depeau, parce que le premier mode, c'est le chômage partiel, hein, par la possibilité du télétravail. Deuxièmement, la possibilité du chômage partiel, c'est ça?
Après, vous pouvez avoir un chômage technique complet ou un chômage partiel en fonction, mais là, pour le coup, c'est l'employeur qui doit mettre en place les choses s'il est dans l'incapacité de pouvoir proposer du télétravail à ses personnels, en fait. Les médecins vont vous trouver des questions intenables avec des pressions importantes de la part des patients qui sont finalement pas de votre ressort. C'est comme sur la question des modes de garde, on a ressaisi l'assurance maladie sur est-ce que les soignants peuvent prendre un arrêt de travail pour garder leurs enfants? Est-ce qu'ils y ont le droit? Parce que il semblerait qu'il y ait certaines structures qui fassent pression en disant que vu qu'ils ont un mode de garde qui est possible pour les soignants, ils n'ont pas le droit de faire valoir l'arrêt de travail pour mode de garde. On est en train de confirmer l'écrit que, bien sûr que si, un soignant qui veut quand même garder ses enfants a le droit de garder ses enfants, par exemple.
Ok.
Nous avons également le cas de patients qui nous disent qu'ils travaillent sur leur lieu de travail dans des conditions qu'ils considèrent comme tout à fait inadaptées et que l'employé ne leur donne pas ce qu'il faut et qui demande qu'on les mette en arrêt de travail parce qu'on considère qu'ils courent trop de risques là-bas.
Oui,
Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là?
C'est aussi des questions de protection du travail, hein, puisque l'employeur a l'obligation de donner des conditions de travail de sécurité à ses salariés. Il y a lieu aussi pour les salariés de pouvoir saisir leur syndicat ou leur représentation syndicale sur ce sujet-là aussi. Hein.
Oui, c'est assez complexe. J'ai eu la même question, Michel, que toi aujourd'hui. J'ai eu du mal à répondre. Mon salarié, son patron, avait fermé l'entreprise pendant 8 jours. C'est dans le bâtiment. Et là, il leur a tous demandé de retravailler. Et les conditions, effectivement, ne sont pas dans le bâtiment propices à respecter le confinement. C'est-à-dire que on ne peut pas travailler à 1,50 m de l'autre, on s'échange ses outils, on travaille ensemble, etc. Et voilà, donc le patient ne se sentait absolument pas en sécurité, il avait en plus une épouse souffrante. J'ai été très, très ennuyé dans cette démarche. Tout à fait. Donc, bon, ça va se résoudre, parce que comme son patron a décidé que c'était un abandon de poste, il l'a licencié.
Tu parles, j'espère que ça va aller au prud'homme, cette histoire.
Ouais, mais voilà, donc le prud'homme ne te permet pas de retrouver ton emploi. Hein. Enfin, même si tu touches une indemnité, tu ne retrouves pas ton emploi après un prud'homme.
Ouais, donc, c'est un vrai problème en tout cas.
C'est un vrai problème. Hein. Là, il était trop tard pour la question de l'arrêt de travail se posait pas parce qu'il était trop tard. Le patient a quitté son emploi mercredi dernier. Jeudi dernier, il est venu consulter aujourd'hui, donc on était au-delà des délais possibles de prescription d'un arrêt de travail. Mon arrêt de travail ne peut pas être rétroactif, donc Donc il attendait sa lettre de licenciement. Il avait reçu sa lettre de licenciement le matin. Donc je lui ai expliqué que c'était pas possible pour moi 5 jours après de mettre un arrêt de travail. Ah.
Bon, je sais pas s'il met de la musique, mais on s'en serait, c'est pas indispensable, hein.
Non, mais j'ai trouvé que c'était pas mal.
Petit moment de détente.
Ouais, je pense quand même, dans cette ambiance très tendue, ça nous fait du bien. Une petite blague de temps en temps, c'est pas mal.
Dans le même état d'esprit, il y a une question. Les actifs fragiles qui ont pu bénéficier des 21 jours d'arrêt arrivent au terme de cet arrêt en fin de semaine. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite?
Eh bien, on prolonge. On prolonge. On prolonge. On n'a pas d'avis officiel pour l'instant. On attend un avis officiel de l'assurance maladie, mais il faudra prolonger.
Oui, qui va arriver. Je me demande même s'ils ne vont pas le prolonger de manière automatique pour ceux qui ont eu l'arrêt de travail
initial.
Au départ. Ouais.
A priori, comme ils n'ont pas envie d'encombrer leur site, ça devrait être automatique. Ah, vous avez vu tout ce qui est ALD. Oui.
Est-ce que vous avez eu l'occasion, alors excusez-moi vu que je suis arrivée en cours de route, mais est-ce que vous avez eu l'occasion de dire que par contre, il va y avoir un changement dans les arrêts de travail pour les, notamment par exemple les femmes enceintes qui relevaient du premier et deuxième trimestre, puisqu'il y a eu un changement dans les critères, et que maintenant ce ne sont plus que les femmes enceintes du troisième trimestre qui peuvent bénéficier d'un arrêt automatique, vous allez devoir faire ce que vous n'aviez jamais le droit de faire jusqu'ici. Vous allez devoir faire des arrêts de travail rétroactifs. En tout cas, c'est ce que nous a dit l'assurance maladie vendredi dernier, pour pouvoir régulariser des situations, puisque les assurés vont recevoir des courriers en disant qu'ils ont pris des arrêts de travail injustifiés, puisqu'ils ne rentrent pas dans des critères qui ont été redéfinis postérieurement à l'arrêt de travail. C'est une situation un peu ubuesque. Ouais.
Alors, on ne va pas le faire, ça. Hein. On ne le fera pas. Hein. C'est bon.
Mais vous allez. L'assurance...
Non, mais l'assurance maladie, elle se démerde avec ça, c'est bon, quoi.
Ah oui, c'est bon, ça. C'est
hors de question de faire du rétroactif, parce que ça nous posera des problèmes. On a des employeurs, si on fait des arrêts de travail décalés de 48 heures, ils mettent les confrères au conseil de l'ordre pour certificat ou de complaisance. Ouais. Donc là, l'assurance maladie, elle se démerde avec ces arrêts. Hein.
Ah oui, tout à fait. On ne fera pas d'arrêt de travail. Je peux appeler Mme Gadi-Charrier. Je vais appeler Mme Gadi-Charrier demain. Je vais dire qu'on ne fera pas d'arrêt de travail de rétroactif. Le dernier confrère que j'ai accompagné au Conseil de l'Ordre pour 24 heures pour un arrêt de travail qu'il avait anticipé de 48 heures a eu la gentillesse de bénéficier d'un blâme. Hein. Donc... je pense qu'on ne fera pas.
Les ordres étaient présents à la réunion. Ils ont réagi évidemment comme vous en disant que d'habitude, c'est des choses qui sont impossibles à faire. Ils n'avaient pas tranché. Je vais regarder en même temps ce qu'ils m'ont envoyé comme compte-rendu de cette réunion où c'était marqué du coup. Parce que comme ça, je pourrais vous le confirmer. Vous le confirmez.
Il n'empêche qu'un faux reste un faux. Pour notre part, ça sera non. Voilà.
Marie-Moi, j'ai une question, s'il vous plaît.
Oui.
Oui. Alors, c'est un cas personnel. J'aimerais, puisque j'ai des experts au téléphone, savoir ce que je dois faire avec une secrétaire qui va avoir 70 ans le 2 avril et qui a été voir son médecin pour lui poser la question et lui demander est-ce que ce serait raisonnable de continuer à travailler ou est-ce que je dois me mettre en arrêt. Et son médecin lui a répondu tu continues à travailler. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que chômage, moi, je n'ai pas de revenu qui va rentrer. C'est vraiment compliqué pour moi.
Alors, le prescripteur, oui, alors soit télétravail, effectivement.
Lui offrir
des conditions de télétravail.
Flexi.
Une possibilité. Sinon, la possibilité. Alors, tu es pas son médecin traitant, c'est ça?
Non, je suis son employeur.
Son employeur. Alors, pour le certificat initial, il peut être établi par quelqu'un d'autre que son médecin traitant. C'est déjà prévu. Donc, éventuellement, tu peux la mettre toi-même en arrêt de travail. Et la prolongation, elle pourra toujours être faite par toi parce que la prolongation, elle peut être faite soit par le médecin traitant, soit par le prescripteur initial. Donc, le problème, c'est que dans ton cas, pour les prolongations, si tu le fais toi-même, elles ne pourront être faites que par toi. si c'est pas le médecin traitant qui a fait l'initial.
Moi, c'est une bonne nouvelle, parce que si on confine jusqu'au mois de septembre, c'est quand même chaud, quoi.
Ouais, voilà. Donc, tu peux quand même la mettre en arrêt de travail si tu...
Mais contacte quand même le médecin traitant. Je pense que c'est mieux dans le cadre de la confraternité, avec bien évidemment l'accord de la secrétaire.
Hein. Oui, non, mais
ouais,
d'accord, elle peut être en arrêt de travail, elle, évidemment.
Non, mais tu peux pas appeler le médecin traitant sans l'accord de la patiente.
Hein. C'est ce que je dis. Hein. Faut que si tu appelles le médecin traitant, tu le fais avec l'accord de la patiente, en faisant les choses au mieux. Mais faut être assez prudent. Hein.
Parce que quand même 70 ans, c'est un âge raisonnable.
Ouais, non. Tout à fait, tout à fait.
Je vous remercie.
Alors,
Monsieur De Maurice, si vous voulez, je peux compléter, parce que du coup, je viens de recevoir le compte rendu de l'assurance maladie qui a modifié un peu suite, en effet, je pense au cri d'orfraie qu'on avait poussé quand ils nous avaient annoncé ça, mais je vous le donne quand même en direct, que compte tenu de l'absence de précision dans le premier avis du comité pour les femmes qui ont déclaré l'arrêt entre le 18 et le 25 mars. Donc, le critère de la période du troisième trimestre ne sera pas pris en compte, mais qu'à partir du 25 mars, les femmes à partir du troisième trimestre seulement pourront utiliser le service. Les autres seront orientées vers leur médecin traitant, et que les affections longue durée qui sont concernées par le dispositif, pour lesquelles il y a nécessité pour le médecin de préciser s'il y a lieu d'arrêter ou de ne pas arrêter, c'est bien écrit noir sur blanc, l'arrêt peut être déclaré de manière rétroactive, avec possibilité de déclarer un arrêt initié depuis le 13 mars 2020. Que vous risquez d'avoir des patients qui vont être contrôlés par l'assurance maladie, qui ne voudra pas forcément verser les IJ, et qui demandera du coup un arrêt de travail du médecin traitant pour conforter l'arrêt.
Eh ben, il faut râler, parce qu'en termes administratifs, c'est bon, on en a déjà beaucoup. Hein. Ouais. À titre indicatif, je voudrais faire une remarque. Je suis allé à la pharmacie chercher des médocs. J'en ai profité pour demander de nouveau mes 18 masques. Ouais. La pharmacienne m'a dit qu'elle n'avait pas eu de livraison depuis 15 jours et qu'en plus, elle ne pouvait pas me livrer mes 18 masques sur le stock restant puisque j'étais passé vendredi et qu'il fallait que je repasse vendredi rechercher mes 18 masques parce qu'on lui a dit qu'on était obligé de laisser passer. C'était une semaine et une semaine. En fait, les masques pour les médecins généralistes qui pètent chaque fois que je les mets, c'est comme les toxicos avec le Subutex. Ça commence à me gonfler. Donc, je voudrais qu'on remonte l'information. Je ne prends pas du Subutex. Je me protège et je protège mes patients. C'est Marc Vogel qui parle.
Oui, mais tu connais. T'as bien reconnu, Marc. Aussi bien comme c'est tout où tu vas chercher ton Subutex, ça ne change rien. Bon, allez. Oui, non, mais on va faire remonter. Il n'y a pas de souci. On va faire remonter. Alors,
poser une question, s'il vous plaît, concernant les arrêts de travail pour les personnels, donc les médecins libéraux. J'ai en fait un patient de 64 ans qui est donc médecin libéral et qui a des antécédents d'infarctus du myocarde. Il a fait sa première déclaration d'arrêt de travail sur le site amélie.fr. Et il me posait la question pour la prolongation d'arrêt de travail, dans la mesure où lorsqu'on va à l'heure actuelle sur le site amélie.fr, il est bien indiqué que à l'heure actuelle, les médecins, les indépendants libéraux n'ont plus accès à ça. Et lui a essayé de faire malgré tout sa prolongation d'arrêt et il me disait que la prolongation n'était pas envisagée. C'est-à-dire que s'il reclique sur l'arrêt de travail, il ne peut faire l'arrêt de travail qu'à nouveau comme si c'était un arrêt de travail initial. Alors, comment faire à ce moment-là?
Pour le coup, vous avez tous, tout le monde a basculé sur le droit commun, donc sur le déclare.amélie.fr, puisque vu qu'ils ont supprimé les délais de carence pour tout le monde bénéficie du même dispositif. Et donc, du coup, il peut se déclarer sur déclare.amélie.fr.
Et pour la prolongation, comment doit-il faire alors? Puisque donc, ça, c'est ce qu'il avait fait au départ. Et quand il a essayé de se remettre dessus pour faire la prolongation, il me dit que ça repart comme si c'était un initial. Donc, ce n'est pas un problème alors, puisqu'il n'y a pas de délai de carence.
Non, il n'y a pas de délai de carence. Donc, ce n'est pas un problème, il n'y a pas de délai de carence. Ça ne change rien. Par contre, il a prévenu son assurance, etc.
Il l'a prévenu. Vous voulez dire quoi? Oui, oui, d'accord.
Son cas complémentaire, etc., etc. Il a prévenu la CARMP, parce que si ça dure trois mois, ça fera un relais CARMP. La CARMP, il faut... Vous allez voir, c'est très jouissif, la déclaration à la CARMP. J'ai dû le faire pour un de mes confrères. C'est une histoire de fou. On va vous demander un certificat d'un médecin spécialiste. C'est très original.
Et il me demandait si c'était normal que concernant son premier arrêt de travail donc sur declaramélie.fr ainsi que à la CARMP donc conjointement, il n'avait aucune nouvelle.
Ah oui, on n'a aucune nouvelle. On n'a pas de réponse. Non.
D'accord. Okay. Bon, donc c'est...
C'est normal. Je vais vous dire que c'est normal.
Okay, merci beaucoup.
Alors, on avait des questions sur les questions sur les formes de virus. En ORL, plusieurs tableaux parotidite sans fièvre, otalgie unilatérale avec souvent anosmie et albiopie. Si pas d'autres symptômes respi, comment coter les signes de gravité? C'est ce qu'on a déjà répondu à cette question. Idem dans le cas de sujet contact Covid avec uniquement des gros troubles digestifs. Il faut se référer à la grille. Personnellement, je ne fais aucune consultation pour un patient suspect Covid sans avoir recours à la grille. C'est beaucoup plus simple. Vous avez 15 items, 15 questions à poser. Ça vous simplifie la vie. Alors, il y a d'autres outils qui sont mis en place. Sur le site de l'URPS, on en a pas mal à vous proposer. Il y a aussi un modèle sur AntibioClic qui est assez facile avec un menu déroulant. Bon, il n'est pas très exhaustif, il n'est pas très, très... Mais il permet déjà de faire un premier suivi des patients contacts, etc., sans grosses erreurs, quoi. Alors, il y avait une question qui était posée sur la durée de contagion par rapport à l'incubation et les symptômes et la durée du virus sur les habits et le bois. Alors, je pense, Madame Depau, si je me souviens bien des différentes conférences qu'on avait eues, auxquelles on a assisté, qu'on estime que les patients restent contagieux 5 jours après la fin des symptômes. On doit considérer qu'ils ne sont plus contagieux 5 jours après la fin des symptômes. C'est ça, hein?
Oui, je vais vérifier en même temps qu'on se le parle.
Je crois que c'est ça. Mais personne ne sait si le patient anosmique demeure contagieux parce que l'anosmie peut durer 15 jours supplémentaires. Et ça, personne n'a su nous répondre à cette question-là. On l'a posé à plusieurs infectiologues, ils n'ont pas su nous répondre. Allô ?
Oui, on t'écoute. Hein.
Oui, pardon. On n'entend plus rien, des fois on se pose des questions.
Non, je n'entends pas, il y a encore beaucoup de monde de connecté.
Monsieur Demory, je peux compléter parce que du coup, la semaine dernière, les infections ont dit il n'y a plus de contagiosité après 48 heures sans symptômes en population générale, avis du Haut Conseil pour la Santé publique du 16 mars. Voilà.
Oui, le problème, c'était que certains symptômes sont vraiment très modestes et de savoir, mais là, on n'a pas de question. Par exemple, l'anosmie, est-ce qu'il faut attendre la fin de l'anosmie? On ne sait pas trop. Mais bon, globalement, c'est ça. Oui. Alors, durée de vie sur les différents supports. Alors, notre hygiéniste nous a dit qu'il n'y avait pas d'études sérieuses et qu'il y avait un chiffre à retenir, c'était 4 heures.
C'est minimum 3 heures sur les surfaces inertes.
Voilà.
Et c'est 6 jours sur les surfaces humides.
Humides, voilà. Mais que sur les surfaces inertes, il fallait entre 3 à 4 heures. C'était une valeur commune pour toutes les surfaces. Il n'y avait pas une surface nettement supérieure à l'autre. Alors, comment identifier...
J'ai une question à ce sujet.
Oui.
Oui, est-ce que, parce qu'on rencontre une surface contact, est-ce que c'est forcément contaminant? C'est-à-dire, est-ce que si on touche, on est forcément malade? Moi, je dis non.
Non, justement, c'est pour ça que tu mets un masque, pour ne pas te porter les mains au visage.
Oui, bien sûr, mais c'est pour le redire aux patients, parce que les gens, ils ont peur de tout, donc...
Alors non, pour relativiser, en fait. Le fait de toucher la surface, c'est pas contaminant. Si tu te laves les mains dans les minutes qui suivent, si tu utilises un gel hydroalcoolique et si tu ne portes pas tes mains, c'est une transmission gouttelette et support. Donc gouttelette, ça veut dire que par l'air, par la projection de gouttelettes, sur le support, c'est les gouttelettes qui sont sur le support, tu les mets sur la main et de la main, tu les transmets en te touchant le visage. Il faut savoir qu'en temps normal, on se porte la main au visage une trentaine de fois par jour. Donc, actuellement, on le fait peut-être un peu moins, mais on les porte quand même de façon totalement inconsciente plusieurs fois par jour. Et d'ailleurs, j'ai regardé plusieurs conférences à la télé où les gens parlaient de Covid,
Et c'est très surprenant comme ils sont très, voilà, ceux qui ne sont pas habitués à être devant une caméra, se porter tous la main au visage 10 ou 15 fois toutes les 5 minutes. Hein. Donc, c'est vraiment un réflexe. Il faut être très prudent sur ce mode de transmission. Alors, la question suivante, c'était comment identifier les spécialistes en activité sur Tourcoing Métropole et leur capacité de téléconsulteur. Ben, je pense que l'URPS va mettre en route un travail ou a débuté un travail. Et là, je vais laisser Mme Depeau vous en parler.
Oui, on est en train de commencer à travailler avec les différentes spécialités pour voir comment ils assurent la continuité des soins au niveau de leurs différentes spécialités. On a déjà des spécialités qui se sont fait connaître et qui assurent des relais. Par exemple, on a eu en diabéto, en cardio, des relais qui ont dit que même s'ils n'étaient pas d'accord aujourd'hui, par exemple sur la télé-expertise telle qu'elle est proposée par Assurance Maladie, ils étaient tout à fait d'accord pour pouvoir faire de la télé-expertise dans une période de Covid avec leurs confrères. Donc du coup, on est en train d'appeler toutes les spécialités pour voir comment ça se passe, et en sachant qu'il y a encore des spécialistes qui répondent au téléphone et qui assurent leurs urgences. Et c'est ça qu'on essaye d'arriver à identifier, tout en sachant que si le confinement venait à perdurer, il y a aussi les spécialistes qui ont dit qu'ils allaient finir par réouvrir leur cabinet, que leur fermeture allait s'arrêter et qu'ils allaient reprendre une activité minimale.
Oui. On peut se donner un délai de réalisation de cet agenda, puisque nous, en ce moment, on assiste à la dégradation de nos patients chroniques. On n'a plus du tout accès à nos spécialistes. On commence à rentrer en difficulté. On est les médecins généralistes, mais on n'est pas spécialiste en rhumato, on n'est pas spécialiste en endocrino. Donc là, ça commence à nuire en pneumo. Donc on commence à prendre du retard sur le traitement et le suivi de nos patients chroniques, en fait. Hein.
Oui.
Est-ce qu'on peut se donner un délai de réalisation sur cet agenda?
Ben, on avait besoin de vous remonter pour savoir si c'était un besoin réel.
Oui.
Nous, c'était un besoin ressenti.
Ça commence à déconner partout. Hein.
Écoute, on va transmettre, on va vraiment travailler beaucoup sur ce sujet.
Ok.
On s'y engage formellement.
D'accord. Moi, ce matin, j'ai téléphoné à François Gutz pour le remobiliser. Donc, pour préparer cette question, ce matin, j'ai téléphoné à François Gutz qui est de chez RMC. Le directeur de chez RMC, de manière à ce qu'il puisse demander à ses spécialistes de devenir téléconsulteur. Voilà.
Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que, du coup, M. Chazal, il m'a dit qu'il était temps qu'on soit sûr que la ville réponde. Parce que nous, on a encore beaucoup de contacts avec des spécialistes qui assurent des réponses au téléphone et qui ont encore un secrétariat qui répond. Mais du coup, sur votre territoire, c'est pas le cas, si j'entends bien.
J'ai une question, c'est par rapport aux dentistes. Est-ce que vous avez des informations sur leur protection et savoir
oui.
si prochainement les dentistes vont pouvoir travailler? Est-ce que vous pouvez me donner des informations?
Alors les dentistes, c'est la seule profession pour laquelle leur travail a été réglementé. Ils ont dû fermer leur cabinet et ils assurent la prise en charge des soins d'urgence de manière complètement organisée. Donc du coup, il y a des points d'ancrage pour lesquels il peut y avoir des consultations pour les dentistes, oui. pour lesquels ils sont avec des masques FFP2 pour pouvoir travailler dans d'aussi bonnes conditions que possible.
Et donc le FFP2 est suffisant pour pouvoir travailler pour les dentistes, pour leur sécurité? Parce que j'ai cru comprendre qu'ils vaporisaient le virus et que ça pourrait rester en suspension plusieurs heures dans le cabinet médical.
Alors, l'idéal comme proposition, c'est le film de polycarbonate.
Oui, mais pour le patient beaucoup... suivant, indépendamment de ça, pour le patient suivant, tu as un problème dentaire, Bertrand. Tu te fais soigner indépendamment de la protection par le FFP2 et puis le masque de polycarbonate. Néanmoins, le patient suivant, lui, il va arriver dans un endroit qui est complètement vaporisé.
Oui.
Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'actuellement, moi, pour avoir dû contacter des dentistes sur mon secteur, ils font 2 à 3 soins par jour, mais uniquement sur des soins urgents qui ne peuvent pas reporter, etc. Donc, ça leur permet de ventiler leur cabinet entre deux de façon… ils font un soin en début de matinée, ils font un soin en fin de matinée, ils font un soin en début d'après-midi et un soin en fin d'après-midi.
Les deux.
et entre deux, ils font le nettoyage.
Et ils vivent de quoi, ces confrères?
Ah bah, ils sont comme les autres, ils vivent de rien parce que c'est une catastrophe. Hein. En spécialité, je peux t'assurer qu'actuellement, en spécialité, avec les charges, les gens pensent pouvoir tenir un mois, deux mois, pas plus. Hein. Le troisième mois va être catastrophique pour beaucoup d'entreprises médicales. Donc, actuellement, on fait un gros travail au niveau national avec les syndicats. On fait un très, très gros travail. Et je pense que l'assurance maladie prendra en charge les frais fixes. On essaye d'obtenir ça. Pour faire en sorte que les structures restent en place à l'issue de l'épidémie. Sinon, il y en a énormément qui risquent de faire faillite.
Oui, c'est pour ça que ça me paraît urgent de redonner des moyens à nos collègues spécialistes de travailler. Nous, on a équipé nos patients en téléconsultant. Donc, je pense que ça commence à venir d'une manière large. Ça serait maintenant que les malades sont équipés, ils sont facilement joignables, un peu plus que par téléphone et d'une manière un peu plus crédible que par téléphone.
Est-ce que l'URPS fera une grosse communication par la presse? Parce que là, moi, j'ai vu deux pharmacies qui me disent, là, ils délivrent à fond des ordonnances, et que les pharmaciens disent, mais vous pouvez consulter vos médecins, ils ont organisé les choses, ils font de la téléconsultation, mais non. Et donc, aujourd'hui, tous nos chroniques, là, on les voit plus. Et en fait, parce qu'ils ont peur de venir, ils ont peur d'attraper la maladie. Donc, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une communication par la voie du Nord.
Il y a une communication qui est faite. On a fait un communiqué de presse avec France Info Santé hier.
Oui.
Alors je l'ai pas vu, on l'a vu dans la presse, moi j'ai pas vu dans la presse locale. Non,
mon contact de la Voix du Nord m'a dit qu'elle me rappelait demain.
D'accord. Il faut absolument, parce que la communication d'Edouard Philippe de dire vous devez consulter uniquement sur convocation médicale urgente fait que les cabinets médicaux, et là on va avoir des chroniques qui vont devenir des aigus. Hein.
Et là vous avez l'ARS, elle a entendu et ils ont relayé pour avoir aussi une demande de communication nationale parce que les CHU ont aussi fait remonter leurs difficultés d'avoir des infarctus à J4, etc. Et donc là, ça date de ce soir, hein, et c'est pas un poisson d'avril, parce que je vois que c'est daté du 1er avril, ce qu'ils me donnent, mais ils voulaient faire une campagne d'information assez simple où c'est marqué « patient ». Pendant l'épidémie, ne négligez pas les autres pathologies. Même pendant le confinement, les professionnels de santé continuent de vous accueillir dans des conditions sécurisées. En cas de besoin, contactez votre médecin. En cas d'urgence, appelez 15. Voilà. En tout cas, eux aussi, ils ont en tête de pouvoir pouvoir relayer ce type d'information, de communication.
Parfait.
Alors, la question suivante, comment permettre à nos patients de devenir téléconsulteurs en évitant la fracture numérique? Alors, pour l'instant, dans le cadre de l'épidémie, le télésoin est accepté par décret au même tarif que la téléconsultation. C'est-à-dire que grâce au Covid, on est enfin rémunéré comme les médecins allemands, c'est-à-dire 25 € pour le télésoin. On n'a pas encore la consultation à 50 €, mais ça ne saurait tarder. On a bon espoir. Et si on a autant de respirateurs que les Allemands, on sera bientôt comme eux. Ça, c'est un peu d'humour. Mais toujours est-il qu'actuellement, le télésoin est accepté par décret au même tarif que la téléconsultation. Donc, si vous avez des patients qui n'ont pas de système numérique, etc., vous pouvez faire de la téléconsultation, du télésoin, au tarif TCG pris en charge à 100% actuellement.
Quand tu parles de télésoin, c'est le coup de fil téléphonique.
Voilà, c'est le téléphone.
D'accord.
C'est-à-dire que la vidéo n'est pas indispensable.
La vidéo n'est pas indispensable. Donc, voilà, actuellement. Et il n'y a pas de... Il y a exonération du ticket modérateur. Hein. Donc, voilà.
Et vous pouvez aussi, pour éviter la fracture numérique, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise, vous pouvez aussi faire une téléconsultation assistée par une infirmière ou un infirmier.
Oui, tout à fait. Il y a un acte de téléassistant qui existe à la nomenclature des infirmières. J'ai fait ça récemment pour des soins de dermato chez un patient. Et l'infirmière était très contente de l'acte de télésoin, de téléconsultation avec elle, assistée. Donc,
les feuilles de soins papier, on doit les garder ou est-ce qu'on peut déjà commencer?
Ah non, alors dans le cadre, oui, alors les Non, non, il y aura. Vous devez garder les feuilles de soins papier pour uniquement quand vous faites du mode dégradé en dehors du TCG. C'est-à-dire que si vous allez à domicile, que les patients ont perdu leur carte vitale et qu'ils n'en ont plus, et que avant vous faisiez une feuille de soins papier, vous pouvez faire une feuille de soins en mode dégradé. L'inconvénient de ce mode dégradé, c'est qu'avant, il fallait adresser à la CPAM dans les 3 jours une copie de la feuille de soins avec un bordereau de télétransmission. Pendant la période d'épidémie, ces deux éléments ne sont plus réclamés. Par contre, il faut les conserver. La caisse pourrait être amenée à les demander à la fin de l'épidémie. Oui, non, maintenant, mais ils en réclament beaucoup.
Mais les feuilles de soins papier, moi j'ai des patients qui ont perdu leur carte vitale et elles ne sont pas renouvelées.
Oui.
Donc j'ai fait des feuilles de soins papier pour le TCG.
Tu peux faire une FSE dégradée.
Je n'arrive pas à la faire parce qu'en fait, ils me demandent des numéros, des codes, des machins que je n'ai pas. J'ai que le numéro de sécurité sociale, j'ai la date de naissance, mais je n'ai pas leur, le système.
Alors, dans ce cas-là, il faut que tu envoies tes feuilles de soins papier par voie postale, mais elles seront traitées dans un délai assez long. Étant donné qu'ils ont beaucoup de personnel qui sont en arrêt pour garde d'enfants, etc.
Ils ne font pas de télétravail. Hein.
Voilà. Alors, bonjour à tous. Les actifs fragiles qui ont pu bénéficier des 21 jours d'arrêt arrivent au terme de cet arrêt en fin de semaine. Quelqu'un a-t-il une info sur la suite? On vous l'a expliqué. Donc, y aura-t-il un renouvellement automatique, une reprise du travail, une réévaluation par nos soins? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Madame Depeau, vous avez une réponse sur ça?
Mais tu as répondu tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
Ça va être automatique. D'accord.
Je pense que vendredi, vu qu'on les a, ils nous confirmeront, parce qu'on leur a posé la question vendredi dernier. Du coup, ils devaient nous redonner la réponse. Parce que, pour information, on a une réunion tous les vendredis avec l'assurance maladie et les ordres pour pouvoir faire le point sur les dernières actualités et puis toutes les questions qui restent en suspens pour qu'ils puissent nous trouver les réponses. Donc ça fait partie des réponses qu'ils sont censés nous apporter ce vendredi.
Bon. La dernière question pour l'instant, c'était comment permettre aux kinés d'être insérés dans la démarche de soins des COVID et des autres patients qui pourraient être coachés par un télésoin kiné. Pour l'instant, l'ordre des kinés leur interdit d'exercer en dehors des situations à risque vital. Donc, beaucoup d'entre eux se sont inscrits sur la réserve sanitaire. Ils peuvent aussi participer au centre dédié. Ils peuvent participer éventuellement à l'accueil, à l'éducation thérapeutique des patients, etc., et compléter vos effectifs. Est-ce que vous avez d'autres choses, Madame Depeau, sur la participation des kinés?
Les kinés, vous avez parlé du télésoin, c'est ça ou pas?
Oui,
en fait, on a nos kinés qui restent en RAD. Ce sont des agents soignants, ils connaissent leurs patients. Leurs patients, s'ils ne sont pas coachés régulièrement, même par téléphone ou par téléconsultation, comme chez nous ici, ça se fait à Tourcoing, le parkinsonien, il décline, le BPCO, il décline, le diabétique, il ne fait pas son activité physique, il déprime. Donc là c'est pareil, on se prive d'agents soignants et ça nous retombe dessus les médecins généralistes. Donc les temps de consultation s'allongent et
après tout est en train de se mettre en place et de se libérer petit à petit. Les actes de télésoins des kinés sont en train aussi de se libérer, tout comme ils sont en train de réfléchir. Ils ont créé d'abord les actes infirmiers pour des actes Covid infirmiers. Il y a en réflexion de pouvoir aussi créer des actes Covid kinés, puisque sur la partie respiratoire, leur aide peut être parfois intéressante à vos côtés. Donc du coup, je sais que c'est vraiment des choses qui bougent de jour en jour. Les pédicures podologues aussi, ils sont en train de faire des propositions pour avoir le droit de pouvoir avoir des actes de télésoins. Donc c'est vraiment des choses qui vont bouger dans les prochains jours et semaines pour libérer toutes ces possibilités-là, en fait.
Michel, est-ce que tu avais d'autres questions à nous poser?
Non, je trouve que tu as répondu à toutes les questions. Alors, le seul problème, que ce soit pour les kinés et les infirmières qui sont au chevet du malade, ça va être quand même le matériel, qui sont les blouses, et les masques, etc. Et c'est un problème parce que tu ne peux pas te permettre un parkinsonien dans une atmosphère Covid. Il faut effectivement lui permettre d'apprendre à bien respirer, puisque de toute façon, c'est comme par là que ça se termine. Mais il faut quand même qu'il soit très protégé. Donc, il faut qu'il ait les blouses et tout le reste. Quoi. Et manifestement, ça ne vient pas, ça.
Non, ce n'est pas prévu dans les équipements de protection ARS. On les a sollicités sur le sujet en leur disant que... évidemment, ça allait se poser comme problème. Ils nous ont répondu que pour l'instant, les seuls équipements de protection pour lesquels ils étaient compétents, c'était les masques. On leur a dit qu'évidemment, quand on prend en charge des patients Covid, il faudrait des blouses. Ils nous ont dit, bah, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, on a le problème. On a eu des remontées de terrain, de dire, bah, on n'a plus de surblouses, on n'a plus d'oxymètre et il y a rupture de stock, on ne peut pas en avoir. Comment fait-on? Du coup, ça va devenir un problème de l'agence d'arriver à fournir ce type d'équipement qui fait défaut cruellement.
Oui, je pense qu'au départ, les réponses qui ont été apportées, c'était des réponses dans l'urgence. On pensait que le phénomène allait durer quelques semaines et que tout allait rentrer dans l'ordre. C'est pas ça. Bon, les Chinois, les chiffres publiés étaient loin de la réalité, donc... on s'est modélisé sur le modèle chinois en disant bon, en confinant quelques semaines, on aura voilà, et le modèle chinois est faux, donc on prend conscience de la gravité de la pathologie depuis l'épisode italien, maintenant l'épisode américain. Il faut savoir que les États-Unis sont le pays qui s'est préparé à une guerre virale ou à une attaque virale depuis près de 30 ans. Et quand on voit, depuis la fin de la guerre froide, et quand on voit la désorganisation aux États-Unis, on peut se poser des questions sur l'efficacité des moyens que l'on a face à ce virus. Certains spécialistes d'épidémiologie pensent que l'épidémie sera terminée quand 60% de la population aura fait sa séroconversion, soit par la maladie, soit par le vaccin. Et comme le vaccin, on nous en parle dans un an et demi, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, on s'inscrit dans une procédure qui risque d'être longue, et donc ces moyens de protection vont devenir totalement indispensables, et surtout, pas dans l'immédiat, mais dans la durée, pour tout le monde et pour longtemps. Donc... Voilà. Donc,
très bien. Bon, écoute, Bertrand, est-ce que tu as quelques messages essentiels pour conclure?
Écoutez, je vais reprendre la conclusion. Je vais peut-être laisser Madame Depeau lire les trois messages clés qu'on souhaitait vous faire passer, parce qu'elle en a, fait la rédaction, autant qu'elle en fasse la lecture.
On en avait fait quatre. Hein.
Quatre.
Du coup, le premier, c'était de vous faire confiance. Parce qu'en effet, c'est vous qui connaissez les patients et pour le coup, il y a des réponses pour lesquelles il n'y aura pas de recommandations et de conduite à tenir malheureusement. Et dans les semaines et les jours et les semaines à venir, c'est des questions qui feront beaucoup plus appel à des choix éthiques, des choix entre vous et vos patients qui vont se poser. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais s'il y avait besoin, on est aussi en lien avec l'espace régional d'éthique, pour lesquels on l'a déjà saisi de certaines questions pour avoir des réponses. Donc ça, c'est le premier point qui n'est pas forcément le plus heureux, je vous concède. Monsieur Demoury, je vous laisse compléter à chaque fois si vous souhaitez. Hein.
C'est important, oui. Alors n'hésitez pas à faire remonter toutes vos questions vers l'URPS. Nous restons le correspondant principal de l'ARS avec laquelle on travaille depuis de nombreuses années. Et donc, on connaît nos correspondants à chaque niveau de l'ARS. On a des référents dans chaque direction et on a des liens, bon, on peut pas dire des liens privilégiés, mais on peut transmettre très facilement vos questions aux différentes instances, que ce soit au niveau de l'ARS. Je suis aussi en même temps président de la commission paritaire régionale. Donc, j'ai aussi des contacts faciles avec l'assurance maladie. Si vous avez des questions que vous posez, elles repassent par l'ARS et on les transmettra directement à l'échelon régional du service médical. Donc, n'hésitez pas à faire remonter. On a un site et des personnels très, très actifs sur les questions que vous vous posez. On a trois niveaux de réponse, hein, il y a les réponses, un système de réponse aux questions qui reviennent souvent. Donc, le premier niveau y répond. On a un deuxième niveau quand c'est une question plus impromptue, moins fréquente. Et on a un troisième niveau de réponse avec Madame Depot et Madame Gourouchaga, qui, à elles deux, arrivent à couvrir la plupart des questions. Et il y a un dernier niveau, on a un comité de direction et un bureau qui se réunit de façon très, très régulièrement pour apporter les réponses aux questions les plus pointues et les plus difficiles. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter toutes les questions et on sera vraiment l'interlocuteur. Et on a aussi d'excellents rapports avec nos conseils de l'ordre, qu'ils soient départementaux ou régionaux. Et là aussi, on peut leur faire remonter les questions. Vous pouvez les interpeller aussi directement. C'est aussi souvent une porte, une ouverture aussi, et des réponses à toutes les questions qu'on peut se poser. Donc le point suivant, vous l'avez dit, c'est utiliser la fiche de surveillance. On l'a rappelé. On va vous en proposer, vous en mettre un lien d'autres sur le site qui vont évoluer au fur et à mesure de l'évolution de nos connaissances dans le domaine de cette épidémie. Je vous laisse continuer, Madame Depot.
Le point suivant, c'est en effet ce qui est important aussi dans cette période de crise, c'est que souvent l'information vient de toutes parts et que la pression est assez importante, y compris sur les médecins généralistes, et que souvent la réponse vous l'avez déjà. Elle est relativement simple, mais des fois on a des médecins qui nous appellent et qui nous disent ah oui c'est vrai, il fallait juste que je me remette dans une position relativement normale de médecin généraliste et puis un médecin qui est en train de travailler dans une période Covid et de dire bah oui par exemple cet arrêt de travail là en temps normal je le ferais pas mais c'est pas à moi de le faire, c'est à l'employeur de le faire par exemple, hein. Mais que voilà c'est une période où il est important que vous puissiez prendre du recul pour pas vous faire happer par la demande extérieure et le flot d'informations qui circule. Et vous voulez faire le quatrième, monsieur Demory?
Le quatrième, c'est appelez-nous, vérifiez sur le site les dernières informations parce qu'on le met à jour régulièrement. On vous envoie chaque jour une lettre d'information qu'on essaye de la plus détaillée possible. Et puis surtout, continuez à communiquer sur votre WhatsApp. C'est aussi l'échange entre vous, c'est aussi un excellent moyen de partager de l'information et aussi de partager des connaissances. Et on sait que quand sur un problème particulier, on pose une question complexe à 10 confrères, en général, à 10, on arrive à trouver la réponse à la plupart des questions qu'on se pose. Voilà. Michel, je te laisse.
Très bien. Bah, écoute, Bertrand, je te remercie. Madame Depot, je vous remercie. Je pense que Marion était là également. Elle n'a pas parlé, mais je pense qu'elle était là quand même.
Tout à fait, oui. J'ai écouté attentivement et je n'aurais pas manqué d'intervenir si j'avais pu compléter, mais c'était très complet.
Mais je pense que c'était, oui, c'est ça. Bon, enfin, je vous remercie en tout cas tous. Je vous remercie également pour entretenir le site de l'URPS que je surveille de près tous les jours. Je mets des liens au niveau de la FAPS, puisque je m'occupe quand même de l'Association de permanence des soins du Nord. Non, c'est très bien fait. Et je trouve que ça se clarifie de plus en plus. Il y a quand même beaucoup de boutons. Alors moi, en tant que webmaster, je peux vous dire que je connais, là, je mets beaucoup de boutons aussi.
Une vraie varicelle.
Mais c'est difficile de faire autrement. Et je ne saurais pas quoi vous dire, puisque j'ai la même problématique. Parce qu'on veut tout mettre, mais on ne sait pas comment. Alors le patient, une personne qui arrive pour la première fois avec ses 30 boutons sur lequel vais-je trouver l'information que je cherche. Bon, voilà.
Alors pour le coup, on met des fois l'information dans plusieurs boutons parce qu'il y a plusieurs entrées.
il faut voir s'il y a un moteur de recherche qui permet de retrouver l'information peut-être de manière plus rapide. Mais il faut voir, à voir. Et en tout cas, merci beaucoup, merci à tous. Merci. Et donc, nous allons terminer cette, ça a quand même duré pas loin de 2 heures. Il y n'y a pas eu trop de larcène. Il y a bien eu quelques moments où il a fallu se fâcher, mais ça va. Je pense qu'on était une centaine de personnes. Je pense qu'il n'y a pas eu de bêtises qui ont été dites. Donc, je pense que je vais pouvoir mettre l'intégralité de la bande-son sur le site Internet. À moins que vous y fassiez obstacle.
Non, il n'y a pas d'obstacle.
Bon. Très bien. Et de toute façon, effectivement, par WhatsApp, on a un certain nombre de questions et je ne manquerai pas de vous recontacter directement s'il y avait des questions complémentaires. Et ce qui me tracasse le plus dans l'immédiat, c'est l'équipement quand même, parce qu'effectivement, les blouses et les masques, c'est quand même un truc qui est un vrai problème immédiat.
Alors, je sais pas ce qui se passe sur les masques, mais alors, on voit maintenant, aujourd'hui, j'ai vu 80% de mes patients arriver aux consultations avec des masques. Alors, il doit y avoir un marché noir du masque, c'est pas possible.
Mais il serait normal que nos patients puissent avoir des masques, parce qu'on ne peut même pas leur prescrire des masques.
Alors, je sais pas où ils se les produisent, ils se les fournissent. Nous, on a eu des dons de masques au cabinet, de provenance plus ou moins douteuse, mais qui sont des masques recommandés CE. Donc voilà, il y a un sous-marché du masque qui est quand même très curieux quand même. Hein.
Et il y a une industrie du Nord qui nous a refilé de tout pour se laver les mains. Donc c'est Rocket qui nous a fourni 100 litres de produits.
Ouais, tu sais, nous dans la petite commune de Darmentières, il y a une personnalité qui a offert à l'hôpital 23 000 masques la première semaine et qui en a réoffert 21 000 en cadeau. Donc on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils sont arrivés avec une camionnette qui a ouvert la porte devant l'hôpital et les a déposés devant. Personne ne sait d'où ils viennent. Donc, bon, 40 000 masques bien. Comme ça, donc personne ne sait d'où ils viennent. C'est quand même très curieux ce marché du masque.
Ils sont peut-être tombés du camion.
Voilà, ils sont tombés du camion. Bon.
Allez. Bon.
Bonne soirée.
Bonsoir tout le monde. Merci. Je vais couper la conférence. Hein.
Merci.
Au revoir.
Au revoir, Madame Depot.
Au revoir.
Madame Beauchaga.
Au revoir.
C'est bien. Hein. Au revoir.